15h21, oui, voici Philippe Quentin. Et tout dans pas très, très long, là, dans la chronique de Philippe, on va parler à Mario Langlois qui est à Rimouski. Bon, Philippe, salut, ça va?
Ça va très bien, toi aussi.
Oui, très bien, merci. Écoute, l'Organisation du Canadien a enfin donné leur juste sur Shea
oui,
Weber.
On en a parlé beaucoup, toi et moi, oui. Hier, Patrick. C'était vraiment dommage de voir l'attitude du Canadien dans le dossier de Shea Weber, des nouvelles ou des rumeurs, des morceaux d'informations commençaient à sortir un peu partout au Canada anglais. Peut-être que sa saison est terminée, peut-être que sa carrière est en jeu, peut-être qu'il est à Wisconsin en train de rencontrer un médecin spécialiste. Et à travers tout ça, le Canadien se distinguait uniquement par son silence et en disant, par la voix de son vice-président, « Attendez, plus tard dans la semaine, peut-être qu'on vous tiendra au courant. » Et je pense que tout à coup, le Canadien a dû réaliser l'inconfort de la situation et avant même la fin de l'après-midi, finalement, il y a un communiqué qui a été émis. Et je pense qu'il était plus que temps parce que franchement, les rumeurs, là, quand on parle de la carrière d'un joueur qui peut être en cause, il faut que l'équipe réagisse. Et là, le Canadien nous a dit, écoutez, un instant, c'est peut-être c'est plate ce qui arrive, c'est peut-être pas si tragique. On parle d'un problème avec une cheville, pas d'opération pour l'instant et une absence de 4 à 6 semaines pour Shea Weber. Alors, je pense qu'on aurait dû, j'espère qu'on va tirer les leçons de cet épisode-là chez le Canadien, Patrick, parce que manifestement, on n'a pas tiré les leçons de l'épisode Carey Price il y a 2 ans, quand on a tardé à donner des nouvelles. On avait dit qu'on avait appris à ce moment-là. C'était manifestement pas le cas. Alors, souhaitons que cette fois-ci soit la bonne.
OK. Parle-moi un peu de baseball. Là. Les Astros de Houston qui ont été impliqués dans le scandale de vol de signaux, ils sont encore au stade des excuses.
Oui, c'est ça. Puis l'histoire rebondit aujourd'hui parce que c'est l'ouverture des camps d'entraînement. Hier, tous les joueurs des Astros se sont réunis en compagnie du propriétaire de l'équipe, Jim Crane, en Floride, à West Palm Beach, pour déterminer quelle stratégie ils allaient avoir aujourd'hui, qui était le grand rendez-vous avec les médias. Alors, il y avait beaucoup de journalistes, bien sûr, qui avaient hâte de rencontrer les joueurs et le nouveau gérant, Dusty Baker, pour entendre ce que les joueurs auraient à dire. Et ce qu'on a entendu, et je lis un peu partout aujourd'hui les commentaires, les analyses, là, à chaud, aux États-Unis. Je pense pas que les Astros ont frappé un coup de circuit, Patrick. Il n'y a aucun doute là-dessus. Leurs excuses sont tombées un peu à plat. On leur reproche notamment aux joueurs de s'excuser à personne en particulier et à tout le monde en même temps. T'sais, autrement dit, des excuses mal ciblées. Ou, on n'aurait pas dû faire ça. C'est sûr qu'on regrette. Mais le championnat, ça, il n'y a pas de problème. On mérite notre série mondiale puis on mérite tous les succès qu'on a eus sur le terrain. Alors, c'est pas très convaincant. Peut-être qu'on ne devait pas s'attendre à un mea culpa beaucoup plus prononcé, mais je pense qu'il y a presque un certain cynisme dans l'espèce d'attitude un peu désintéressée qui a été manifestée par les Astros aujourd'hui. Et je veux te faire entendre le commentaire du nouveau gérant des Astros, Dusty Baker, un gars de la vieille école au baseball qui arrive là pour essayer de redonner de la crédibilité à l'équipe et à toute l'organisation. Et lui aussi, il va de façon très, très mollassonne avec les excuses. Écoute ce qu'il dit.
At that meeting last night, the players showed, you know, tremendous remorse and sorrow and embarrassment for their families, their organization, the city of Houston, and for baseball. And I just want to ask for, you know, the world, the baseball world, you know, to forgive them for the mistakes that they've made.
Alors, je demande simplement au monde du baseball de leur pardonner pour les erreurs qu'ils ont faites.
On dirait, Philippe, on dirait des excuses qui ont été écrites par des spécialistes des relations publiques, bien plus que des excuses, disons, sincères qui viennent du cœur.
C'est ça, exactement. C'est l'expression que j'allais employer. Tu sens pas, en écoutant Dusty Baker, que ça vient du cœur. Tu sens pas que c'est quelque chose qui est ressenti profondément. Il dit, les joueurs ont tellement un sentiment de remords, puis ils regrettent tellement, mais écoutez, là, faut leur pardonner, puis on passe à autre chose. Alors, c'est un petit peu facile. Et il y a des joueurs, là, dans d'autres camps d'entraînement qui commencent à parler, notamment ceux des Dodgers de Los Angeles, qui ont été battus en série mondiale par les Astros de Houston, qui disent « c'est pas très, très convaincant ». Et ceux des Yankees de New York aussi, qui ont été battus en série de championnat de la Ligue américaine l'an dernier, au moment où la façon de procéder des Astros était toujours en vigueur, c'est-à-dire voler de façon illégale les signaux ça leur permettait de déterminer quel lancer ils allaient recevoir. Et les Yankees aussi en ont gros sur le cœur. Alors imagine, là, Patrick, tu as deux des plus gros marchés dans le baseball majeur, New York et Los Angeles, où tu as beaucoup, beaucoup de journalistes qui s'intéressent à ces questions-là. Tout le monde trouve que le comportement des Astros a été déplorable et que les excuses ne sont pas assez sincères. Alors, à quoi ça va ressembler la première fois que les Astros vont aller jouer à Anaheim ou contre les Dodgers de Los Angeles ou à New York contre les Yankees, ou je ne sais pas s'ils jouent contre les Mets cette année, c'est possible aussi. J'ai l'impression que l'accueil va être vraiment terrible pour les Astros de Houston.
Philippe, est-ce que ce serait possible d'envisager que le baseball les dépouille de leur titre?
C'est une sacrée bonne question. Puis encore aujourd'hui, il y a des analystes qui disent que oui, qui disent qu'il faudrait leur enlever le titre. Mais pour le baseball majeur, ça serait... Je pense pas qu'ils pourraient aller jusque-là parce que ils collaboreraient un peu à détruire leurs produits eux-mêmes en faisant ça. Et je pense qu'ils vont s'en garder. Ils n'iront pas jusque-là. Ils ont d'ailleurs pas toujours réagi. Tu l'as vu dans le scandale du dopage. Ils n'ont pas réagi avec beaucoup de vigueur. Et là, je pense que ça va être un petit peu la même chose. Ils espèrent que ça passe. Mais il y a une chose qui n'est pas claire encore, c'est tout le dossier des Red Sox de Boston, parce que les Red Sox aussi, avec Alex Cora, c'est pas les Red Sox, mais c'est Alex Cora, l'ancien gérant des Astros de Houston, qui a été congédié par les Red Sox parce que c'est l'équipe qui l'a dirigé par la suite après son séjour à Houston. Mais lui, à Houston, il était un maître d'œuvre de cette histoire-là. Alors lui, on ne sait pas encore quel genre de suspension il va avoir. Le baseball majeur nous disait que ça serait réglé avant les camps d'entraînement. Les camps d'entraînement commencent cette semaine. Okay. Alors peut-être qu'on aura des nouvelles, mais ça aussi, ça va nous aider une indication du sérieux du baseball majeur. Quelle est la sanction qui sera réservée à Alex Cora?
Philippe, je te garde parce que là, on va aller à notre ami Mario Langlois qui a une édition très spéciale des amateurs de sport ce soir. Il s'est rendu à Rimouski pour rencontrer la star, le prodige du hockey québécois, grand espoir du prochain repêchage, Alexis Lafrenière. Salut Mario.
Oui, salut Patrick, salut Philippe.
Salut Mario.
Mario, avais-tu déjà rencontré le jeune homme?
Oui, je l'ai rencontré la première fois l'an passé, le classique d'hiver à Saint-Tite. C'était un premier contact. Je l'ai rencontré. Je lui ai parlé dans des entrevues téléphoniques également. Et je l'ai vu trois fois cette semaine, en début de semaine à Montréal, dans le cadre, au milieu de sa tournée médiatique. J'ai eu l'occasion de passer un moment avec lui en avant-midi. Puis on avait décidé, nous, de se rendre à Rimouski. Question de parler à des gens qui sont là pour l'observer de près, dont son entraîneur, puis voir un peu dans l'environnement dans lequel il évoluait. Alors, juste cette semaine, je l'ai rencontré trois fois. Et j'ai l'impression, là, en toute humilité, pas toute modestie, d'un peu mieux le connaître. C'est pas facile, là, quand même, de percer la muraille d'un jeune homme qui est sollicité de toutes parts et puis qui ne veut pas commettre de faux pas en entrevue, puis pas émettre de déclarations, exprimer de déclarations qui pourraient revenir là avec laquelle il pourrait se faire achaler dans le futur. Alors, je suis bien content de ces rencontres-là et de l'entrevue qu'on va présenter ce soir. Et également, une entrevue avec Vincent Lecavalier, qui a vécu exactement la même affaire en 1998, messieurs, dans le souvenir avec l'Océanique de Rimouski. Mm-hmm. Donc, il sait de quoi il parle.
La même équipe.
Et puis, donc, c'est au cœur d'une émission régulière. On aura une heure spéciale entre 7h et 8h autour de ça. Puis, je sais pas si ça vous tente d'entendre juste un extrait de Vincent Lecavalier, comme ça, en partant, Patrick. Parce qu'il est bien mieux placé, parce que lui, il n'y a rien à défendre. Sa carrière est faite, c'est derrière. Pour dire, tu sais, dans le fond, qu'est-ce qui se passe vraiment dans la tête de quelqu'un? Parce que la réponse traditionnelle d'un jeune qui dit ça, c'est ben, tu sais, j'essaie de garder le focus, d'éviter les distractions, puis d'essayer de m'améliorer. T'sais, c'est une réponse, somme toute, assez prévisible, quoique Alexis se débrouille très, très bien également dans ses entrevues. Mais Vincent, en rétrospective, repense à 98, il est obligé d'avouer que, écoutez ça.
Garde, je pourrais te compter une petite menterie puis te dire que non, là. mais...
C'est pas ton genre.
Non, ça trotte dans la tête. Honnêtement, tout le monde est compétitif. T'as la chance d'être premier. Dans 20 ans, tu regardes ça, tu te dis, ça dérange-tu vraiment si t'as sorti premier ou deuxième? Non, ça dérange pas. Il y a des gars qui sortent en cinquième ronde, puis ils ont une super belle carrière. Il y a du monde qui sont même pas repêchés. Fait que tu sais, mais quand t'es là, dans le moment, puis tout le monde t'en parle tout le temps, c'est là que ça devient peut-être une petite compétition, mais honnêtement, je pense qu'à son niveau qui est, tout le monde le sait qu'il va sortir premier.
Oui, Mario, il y a des grandes chances qu'il sorte premier. Qu'est-ce que ça veut dire, Philippe?
Ouais, ben, Mario, moi, ce qui m'impressionne avec Lafrenière, c'est sa gestion de la pression. Puis j'ai hâte de voir s'il va réussir à poursuivre ça quand il sera le premier choix au repêchage, puis quand il amorcera sa carrière dans la Ligue nationale. Mais tu sais, les attentes étaient tellement grandes envers lui au championnat mondial junior. Il a commencé en feu, il a été extraordinaire. Là, il a été blessé. On se demandait même s'il pourrait poursuivre le tournoi. Il a manqué une coupe de match. Puis il est revenu en champion encore une fois. Puis ça, je trouve que ça en dit long sur chic des fois, le mot est un peu galvaudé, là, puis on l'emploie à toutes les sauces, mais sur le caractère d'un joueur.
Il a définitivement, déjà à son jeune âge, prouvé qu'il avait beaucoup de caractère, a marqué des buts gagnants, ou été un élément important dans les conquêtes, pas seulement lors du dernier championnat mondial junior, avec des clubs de moins de 17 ans également, puis a brillé. Toutes les fois que la pression puis les attentes s'élèvent, il affiche présent, et ça plaît beaucoup, évidemment, à toutes les équipes. Il y a presque aucun doute, il n'y en a pas de véritable course, je pense, à ses tranchées dans le dernier championnat du monde. Ouais. On parlait de possibilité de Byfield au deuxième, on ne sait jamais, mais tout le monde le voit premier. C'est difficile de dresser ou de tracer des comparaisons, mais il y a un gars qui a beaucoup d'expérience de la Ligue nationale, ben, pour ne pas le nommer, André Tourigny, qui me parlait qu'il l'a coaché donc cette année au dernier championnat du monde d'hockey junior, qui travaillait avec les moins de 17 ans, qui le comparait à un gars comme Jamie Benn, qui n'est pas à son chemin en carrière en ce moment, mais c'est un gars très physique, marqueur de but, qui, de l'avis de plusieurs, ceux qui voient beaucoup de hockey dans l'Ouest, a été à un moment donné le meilleur joueur de la Ligue nationale. C'est encore un gars redoutable. Mais comme personnalité, là, je vais me risquer, c'est toujours risqué d'établir des comparaisons. J'ai pas connu Mario Lemieux intimement, là, mais tu sais, pour le peu que j'ai eu l'occasion de le connaître au fil des ans, je trouve qu'il a une personnalité à la Mario Lemieux. En ce sens que, bon, il y a le gars qui présente devant les médias, qui tente de bien répondre aux questions. C'est pas son loisir favori, mais il se prête au jeu. Et le gars qu'on connaît pas, auquel on n'a pas vraiment accès, c'est le gars qui est un aimant dans le vestiaire. Apparemment, c'est comme ça que ça s'est passé avec l'équipe Canada. André Tourigny, dans une conversation récente, me racontait comment juste la mine d'Alexis Lafrenière, ce qu'il dégageait dans le vestiaire à son match de retour dans le championnat du monde après la blessure, alors qu'on a douté qu'il puisse revenir, comment ça avait eu un effet contagieux sur toute l'équipe. Donc ça, on n'a pas accès à ça dans les entrevues qu'il a réalisées cette semaine. Et en ce sens, c'est donc un gars qui est un aimant pour les joueurs, un gars qui tout le monde veut être avec, semble-t-il. Il me fait beaucoup penser à Mario. On disait ça de Mario, qui était quand même plutôt réservé en entrevue, somme toute, à l'époque, puis encore aujourd'hui.
Et Mario, là, bon, t'es sur le chemin, tu reviens à Montréal, tu vas animer ton émission d'ici. Mais cette entrevue-là, là, il t'a parlé, Alexis Lafrenière, il t'a parlé de sa rencontre avec le grand Guy Lafleur.
Oui. Ben, écoute, dans l'entrevue avec Alexis, on aborde un paquet de sujets, puis je lui ai demandé, parce que ça avait été une grosse semaine, là, une semaine extrêmement chargée, mais comment ça a relaxé. Hier, on sentait un peu la fatigue en fin d'après-midi. Ce matin, il était rayonnant. Puis je lui ai demandé quel a été ton plus beau moment de ta journée de lundi, là, dans l'enceinte canadien, avec tout ce qui se passait là. On l'écoute.
Ben, je pense que de rencontrer Guy Lafleur, ça a été, tu sais, je l'avais déjà rencontré, mais de pouvoir y parler encore, ça a été spécial. Puis, tu sais, à chaque fois qu'on peut, parler à des joueurs légendes comme ça, c'est sûr que c'est spécial. Puis juste de pouvoir échanger avec lui, ça a été quelque chose que je vais m'en souvenir, c'est sûr.
Est-ce que tu as l'impression que tu te rapproches de ton rêve de devenir un pro?
Ouais, tu sais, c'est sûr que, en grandissant, c'est toujours un rêve de jouer le plus haut possible, de jouer dans le professionnel. Puis, c'est plus que les années avancent, ça devient un peu plus un objectif. Puis c'est sûr que je travaille le plus fort possible. Puis j'ai encore beaucoup de choses à améliorer, mais faut que je continue à travailler le plus fort possible pour atteindre mon rêve. Là.
Ben merci Mario, on a hâte d'écouter ça à 18h30 aux amateurs de sport. Alexis Lafrenière, c'est vraiment le grand espoir du hockey québécois.
Souvent, les gars. Ça arrive pas souvent.
T'as bien raison.
Au Québec, un premier choix total, là, chacun son histoire, c'est un film à chaque nom qu'on évoque, il va le vivre. Dernier en 2003, avant ça 98. Et une petite surprise ce soir, avec Vincent Lecavalier, on va aborder un sujet qui était imprévu, Ilya Kovalchuk. Il l'a bien connu, puis il y a des parallèles à tracer entre les deux.
Parfait,
il,
les
il
gars.
Il va nous dire ce qu'il ferait dans la gestion de son dossier.
Merci Philippe et Mario. Salut, Philippe. On vous retrouve un peu plus tard dans l'émission à 15h34. Catherine Beauchamp s'en vient.